Joséphine Stephenson, eh bien, nous sommes quasiment à 2 semaines de la création de ces 3 mers lunaires, Free le Narcisse, qui vont être créées ici même, sur le plateau de l'Opéra d'Avignon. Avant de parler de cet opéra, parlons un peu de votre parcours. Alors, vous avez commencé avec la maîtrise de Radio France, ensuite vous avez traversé la Manche, vous êtes allé à Cambridge et au Royal College of Music de Londres. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette double éducation des deux côtés de la Manche?
Oui, donc en effet, j'ai un parcours des deux côtés de la Manche qui a commencé en France, où je pense que j'ai appris une certaine rigueur dans le travail, beaucoup de techniques. Puis c'était mes années formatives, donc forcément j'ai appris à jouer des instruments, à chanter, le solfège et tout ça. Ça, c'est en tout cas le souvenir que j'ai de mon éducation musicale française. Et en Angleterre, une approche assez différente de la musique, où on se concentre plus sur le côté pratique d'être musicien, le fait de savoir déchiffrer, de jouer ensemble, d'improviser. Puis sûrement ça avait aussi à faire avec mon âge. J'ai vécu le passage en Angleterre comme une ouverture aussi. Il y a un côté plus international, peut-être, surtout quand j'étais à Londres, voilà, où j'ai pu moi aussi explorer, de travailler dans de la musique de plusieurs genres et tout ça. Ça a été voilà, une grande ouverture.
Donc vous travaillez dans la musique dite savante, mais aussi dans la musique populaire, hein. Vous travaillez pour des groupes pop, vous êtes même arrangeuse pour des musiques de films. Vous avez travaillé, vous avez eu une longue collaboration avec Dario Marianelli, compositeur des Frères Grimm, quand même, de Terry Gilliam, entre autres. Il n'a pas fait que ça. L'écriture opératique, pour vous, c'est un sommet à atteindre, ou alors c'est un simple palier?
Bonne question. Je ne dirais pas forcément que c'est l'écriture opératique qui est le sommet, mais l'opéra, le genre, le fait que ce soit une collaboration si grande et le fait que la musique soit vraiment centrale à cette pièce de théâtre, c'est vrai que ça, c'est un sommet en soi. On a une grande responsabilité en tant que compositeur d'opéra parce que c'est un peu nous qui organisons le temps et aussi voilà, la dramaturgie émotionnelle, tout ça. Donc oui, c'est un sommet en sorte. Après, moi, la manière dont je l'ai vécu, pas forcément pour l'écriture en elle-même, mais plutôt la nature du projet, le fait que ce soit une si grande collaboration. On a une grande responsabilité en tant que compositeur. Vraiment, c'est nous qui décidons du passage du temps, de la dramaturgie, du parcours émotionnel aussi et tout ça. Donc c'est différent d'écrire une pièce uniquement instrumentale, musicale.
À la base de Free le Narcisse, il y a une commande, un désir de Frédéric Rolls, qui est à la fois le directeur de l'Opéra du Grand Avignon et qui est également le metteur en scène de l'ouvrage. Au départ, il y a eu juste une sorte d'invitation. Il vous a dit « composez-moi ou compose-moi un opéra ». Ou est-ce qu'il y a eu quelques contraintes?
C'est vrai qu'il y a eu très peu de contraintes, si ce n'est qu'il m'a évoqué déjà l'idée du thème de la saison, la Lune. Mais c'est vrai qu'il m'a dit « tu peux t'en inspirer ou non ». Et moi, j'ai trouvé ça trop beau pour m'en priver. Mais c'est vrai que c'était la seule contrainte. Oui.
Alors la Lune, c'est vrai que ça fait rêver. Hein, le voyage dans la Lune de Méliès, de Jules Verne aussi. Puis on a marché sur la Lune, Tintin. Est-ce que vous avez joué sur ce côté onirique et poétique que représente la Lune?
Tout à fait. Et même déjà dans le texte, c'est vrai qu'il y a un côté très, très poétique dans l'écriture de Ben Osborne, donc le librettiste. Et ça, forcément, ça a inspiré ma musique et l'atmosphère de l'opéra. On pose des questions assez difficiles, très sérieuses. Et en même temps, on cherche à trouver une signification profonde à ces questions qu'on se pose. Donc j'avais envie d'amener une dimension un peu transcendantale, plus large que nous-mêmes, quoi. Donc complètement.
L'idée du triptyque, puisqu'en fait il y a 3 histoires dans l'ouvrage, et puis les thèmes, les 3 dilemmes, en fait ce sont 3 dilemmes, hein, autour de la maternité, autour de la maladie, et puis autour de l'alerte d'une certaine manière. Ces thèmes et cette forme, elle est liée à Ben, c'est-à-dire à votre librettiste, ou c'est une idée à vous?
Les deux. Je ne me souviens plus exactement qui a eu l'idée d'avoir ces 3 histoires entre lui et moi, mais ce qui est sûr, c'est qu'on avait plein de choses qu'on avait envie d'exprimer, de dire. Et on est tombé après sur les mers lunaires dans notre recherche, qui ont ces noms tout à fait incroyables. Et on a décidé d'en choisir 3. Ça collait plus ou moins avec les histoires qu'on avait envie de raconter. Bon, je ne me souviens plus si c'était lui ou moi, mais en tout cas, on était complètement en accord. Après, au départ, Ben a écrit chaque histoire séparément. Et là, je dois dire que c'était plutôt mon idée que de les découper et de faire en sorte qu'on passe de l'une à l'autre, comme ça, qu'il y ait des va-et-vient, plutôt que de faire un vrai triptyque 1, 2, 3 à la suite.
Donc au départ, il y avait le texte, et lorsque vous avez commencé à lire le texte, à le découvrir, les notes sont arrivées, les harmonies sont arrivées, les couleurs musicales sont arrivées.
Oui, c'est un peu comme ça que ça marche. Je passe beaucoup de temps avec le texte pour m'en imprégner. Il y a quelque chose dans l'écriture de Ben aussi qui est très évident, qui suggère vraiment des atmosphères. Enfin, moi, j'ai vraiment quelque chose d'assez instinctif avec ça. Je lis le texte et j'arrive à imaginer, voilà, le tempo, l'harmonie, tout ça. Et après, plus concrètement, quand je me mets à écrire, je pars vraiment du texte. Et j'aime bien, en particulier à l'opéra, pour ce genre dramatique, de mettre en musique le texte de manière proche de la langue parlée. Donc je suis vraiment la prosodie, les accents toniques et tout ça de la langue. Donc j'écris d'abord rythmiquement, puis les notes arrivent, comme ça. Enfin, je trace un peu des contours, voilà, je vais monter, je vais descendre, et puis après les notes arrivent, et de cette mélodie en découle l'harmonie. Voilà.
Comment ça en est les trois tonalités, les trois sons, on pourrait dire, différents des trois segments?
C'est vrai que chaque histoire a un peu son propre caractère. C'est parti pour moi au départ des personnages. En fait, on a défini les personnages, ensuite on a choisi notre cast de chanteuses principalement et chanteurs. Donc ça déjà d'avoir les voix particulières des personnes, des chanteurs qu'on a choisis, ça m'a aidé aussi à trouver la couleur de chaque personnage. Je savais par exemple que dans l'histoire de la fertilité, il y aurait cette contralto, Jessica Dandy, dont je connais bien la voix, qui est très très lyrique. Donc je savais que je voulais quelque chose de très doux, de très lyrique. Voilà, suave, c'est ça, tout à fait. Ensuite, je savais que le personnage de Patricia Chiofi, enfin qu'elle allait incarner ce personnage qui se pose beaucoup de questions et qui a un parcours psychologique assez intense. Puis sa voix est plus légère, donc un petit peu plus flexible, la musique dans cette histoire-là. Et puis, enfin, pour l'histoire The Sea of Serenity, là, j'avais envie, et ça, c'est quelque chose qu'on avait décidé avec Ben, que ce personnage étant adolescent, qu'il ait une autre énergie que les autres qui sont adultes. Et donc, m'est venue l'idée assez rapidement d'utiliser une voix plus légère, en l'occurrence une voix folk, donc une chanteuse qui n'est pas une chanteuse d'opéra et qui se sert d'un micro. Et voilà. Et en fait, le fait d'écrire pour ce genre de voix, ça oblige à adapter la musique autour. De fait, cette histoire-là, la musique dans cette histoire-là est devenue un petit peu plus proche de mon travail dans la pop.
Il y a un troisième élément quand même assez important dans l'ouvrage, d'après ce que j'ai lu, c'est le chœur. Je me suis un peu documenté sur Internet. Vous avez écrit deux pièces absolument magnifiques pour la maîtrise de Radio France, alors une pièce assez longue, puis une toute petite pièce qui, je pense, a été composée pendant le confinement. Vous écrivez admirablement bien la musique chorale. Est-ce que c'est un peu votre style de prédilection?
Bah, je vous remercie pour ces commentaires. Bah, disons que c'est quelque chose qui m'habite depuis très très longtemps. Donc j'ai l'expérience d'être dans un chœur, donc je sais quels sont les réflexes qu'on peut avoir en tant que choriste, quelles sont les choses qui sont plus ou moins faciles à faire ou agréables à faire. Donc oui, c'est quelque chose qui vient assez instinctivement pour moi d'écrire pour chœur.
Vous êtes soprane également, hein, donc vous êtes une vraie chanteuse lyrique. Le fait d'avoir une expérience et une pratique de chanteuse, est-ce que ça aide lorsqu'on compose?
Bah je crois, en l'occurrence, je ne pourrais pas te dire ce que c'est l'inverse, parce que c'est tout ce que je connais. Donc oui, je pense
Vous
que...
chantez ce que vous composez?
Oui, je chante beaucoup quand je compose, surtout quand je chante pour...
Vous chantez ce que vous écrivez?
C'est ça, oui. Et d'ailleurs, ça peut m'arriver de chanter avant d'écrire. Par exemple, pour la troisième histoire de l'opéra, là, j'ai vraiment écrit ça en chantant dans mon téléphone, puis c'est passé sur papier, puis ça a été orchestré. Alors que ce n'est pas forcément le cas pour les passages plus classiques, entre guillemets. Mais oui, je chante énormément pendant que je compose.
Les trois thèmes de la pièce, bon, sont des thèmes qu'on peut appeler des thèmes de société, la maladie, la maternité, et puis la vigilance, donner l'alerte ou pas, mais en même temps, vous les traitez d'une manière carrément philosophique ou éthique.
Oui, complètement. Bah, le but, c'était jamais de faire un opéra didactique, politique, qui donne des réponses, parce que ces questions sont extrêmement complexes et chacun par son vécu peut les aborder de manière différente. Donc c'était plus intéressant pour nous effectivement de poser des questions, de faire réfléchir l'auditeur plutôt que de forcer des réponses. Et puis de toute façon, il n'y en a pas. Enfin, il faut les inventer soi-même, ensemble quand même. Donc oui, ça c'était vraiment un choix de vouloir aborder ces sujets qui sont lourds et graves de manière oui, poétique.
Tous les jours, vous assistez aux répétitions, évidemment, hein. C'est de la musique vivante, avec une compositrice vivante. Comment ça se passe? Vous voyez progressivement votre rêve qui se réalise. Alors, entre ce qui se réalise que vous aviez imaginé, et puis vous avez votre metteur en scène à côté, vous avez les chanteurs, dans quelques temps vous allez avoir les musiciens. Est-ce que vous allez avoir des exigences ou est-ce que vous êtes capable de vous adapter? Comment ça se passe? Je suppose qu'il y a un dialogue permanent, non?
Tout à fait, c'est assez étrange comme expérience. J'ai pas encore eu d'enfant, mais je peux imaginer que ça peut être comme le moment où l'enfant quitte le foyer familial, parce que c'est vrai que après que cette musique ait habité seulement dans mon cerveau pendant un certain temps, maintenant vraiment ça se concrétise et surtout l'œuvre est entre les mains d'autres personnes. Je pense qu'il est important et mieux pour tout le monde de faire confiance à l'équipe. Là, en l'occurrence, je ne pourrais pas être plus heureuse des gens avec qui je travaille, donc je leur fais entièrement confiance. Plus on avance dans le processus de répétition, moins j'ai de choses à dire. Là, finalement, c'est assez étrange pour moi d'assister aux répétitions. J'ai plus grand-chose à faire. Mon travail, il a été fait quand même. On a eu une première lecture en février où là, comme c'était suffisamment en avance, j'ai pu vraiment demander des choses spécifiques, même faire des changements depuis cette première lecture. Là, c'est un peu trop tard mais pour faire des changements, mais de toute façon, c'est plus le but. La prochaine étape pour moi, là, au moment où on se parle, on est encore en répétition avec piano. La semaine prochaine, on rencontre l'orchestre. Là, je pense qu'il est possible que j'adapte des choses, parce qu'il y a toujours un peu une différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on entend, selon voilà qui sont les musiciens, etc. Mais oui, je pense qu'il vaut mieux faire confiance et de pas essayer de trop contrôler tout, parce que ça, j'en ai l'expérience maintenant. Ça fait une dizaine d'années que je travaille professionnellement, et en fait, il faut accepter aussi qu'à un moment, l'œuvre nous appartient plus. Ça relie un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur mon parcours et la façon dont j'ai vécu les études en Angleterre et l'approche anglo-saxonne de la musique. Moi, en tout cas, je suis vraiment pour le fait de ne pas s'éloigner trop du grand public, parce que à quoi ça sert? Voilà, moi, c'est important aussi que, sans pour autant faire trop de compromis sur la qualité du travail, de quand même essayer de toucher le plus de monde possible.
Je crois savoir que vous êtes même intervenu sur le choix de la scénographe, ou tout au moins sur une partie de la scénographie.
C'est tout à fait vrai. Très vite avec Ben, on a eu, lui et moi, des idées sur ce à quoi pourrait ressembler le spectacle. Ça fait un bout de temps que je connais Dori Deng, qui est la scénographe, et que j'ai eu envie de travailler avec elle parce qu'on avait des goûts de musique et de peinture et d'artiste, tout ça similaire. Et donc, j'ai proposé à Frédéric Rouls de travailler avec elle et j'étais ravie qu'il accepte et je pense que le résultat est sublime.
Je ne veux pas vous stresser, mais quel effet ça fait de travailler dans une salle où est né mondialement Einstein on the Beach?
Bon, bah, c'est pas rien, mais non, c'est super de savoir ça. On se dit qu'on est sur le bon chemin.
Bonne répétition.
Merci beaucoup.